souvent le football c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si. Moi en tout cas avec des si je coupe du bois, mais.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit dans l'after avec Jérôme Rotel, avec Daniel Riolo et on accueille nos drôles de dames. Simone Rovera, bonsoir.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Julien Laurence, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Fred Hermel, bonsoir.
Hola chicos.
Messieurs, faites gaffe à vos pieds, il est avec nous, le podologue de l'Olympique de Marseille, Jean-Luc Guerre. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir à tous.
Alors on va parler d'un tout autre sujet ensemble là, dans quelques instants, ouais. Mais là Jean-Luc on conclut sur notre sujet là qui enflamme le standard. Oui Daniel.
Juste un mot rapide, Pascal Jalabert qui est rédacteur en chef du Dauphiné nous explique, puisque j'ai posé la question. Donc il dit si le président de l'OM parle dans le Dauphiné, c'est parce que le journal est diffusé dans trois départements du PACA et qu'à Grenoble et à Valence, il y a beaucoup de supporters de l'OM. Voilà, ah, merci.
C'est Saint-Étienne, hein, Grenoble et Valence.
Merci Pascal Jalabert pour ce gentil message.
Eh oui, l'OM est très fort un peu partout. Alors, j'aimerais juste qu'on fasse un petit... Bon, vos résultats, les gars, c'est pas qu'on s'en fout, hein, mais l'Angleterre qui explose le Monténégro, l'Espagne qui gagne à Malte...
C'est vrai que vous jouiez que contre des sélections en carton.
Le Liechtenstein qui est plus faible que la Moldavie, excuse-moi Simonet.
Très fâle carton, très fâle carton.
Je sais pas qu'est-ce qu'a donné la Nation League, là.
Alors, que se passe-t-il dans vos pays en cas d'insultes racistes ou homophobes dans les tribunes? Je démarre par Julien. Je parlais tout à l'heure des chants de chambrage. Il y en avait un qu'on me rappelle Lucien là sur Direct Studio. Il me dit les Anglais sont très drôles. Rappelez-vous quand il chantait sur Suarez en lui disant que ses dents étaient hors jeu. Bon,
ça c'est drôle.
Ça c'est drôle. Voilà.
C'est la frontière entre le drôle et l'insultant.
Voilà. Julien, comment ça se passe en Angleterre?
Non, il y a des chants très drôles, effectivement, t'as raison. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins amusants, beaucoup moins marrants. Daniel l'a rappelé tout à l'heure, hein, le faire l'avion notamment quand tu joues contre Manchester United pour rappeler à tout le monde le désastre de aérien de Munich. C'est de beaucoup moins bon goût. Pareil pour Cardiff et Emiliano Sala, bien sûr. Et puis Liverpool et Hillsborough aussi. Voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent encore très fréquemment en Angleterre et où les autorités ont aussi beaucoup de mal à agir parce que c'est souvent une grande partie d'une tribune, que ce soit un cop ou parfois même des tribunes latérales, et que c'est beaucoup plus difficile que si c'est un acte isolé que tu peux voir sur les caméras de vidéosurveillance par exemple, et puis ensuite d'arrêter le fautif et de l'interdire de stade par exemple pour plusieurs années, comme on l'a vu avec la peau de banane jetée à Pierre-Emerick Aubameyang par un supporter de Tottenham contre le derby lors du derby contre Arsenal. Ça c'est plus facile à gérer si tu veux quand c'est un acte isolé comme ça, quand c'est
et sur les champs là, parce que le sujet c'était les champs là.
Alors les chants, il y a aussi des chants homophobes parfois en Angleterre, ça arrive, mais il y a des chants qui sont peut-être pas homophobes mais aussi graves comme on vient de le dire, notamment sur quelques sur ces certains événements qui ont marqué certains clubs. Alors c'est ce que je te dis, si c'est des gens que tu peux arrêter et reconnaître.
Ah, mais peut-être, mais en Angleterre ils le font pas, je suis sûr.
Ah oui, bah si c'est 15 000 personnes dans un cop quelque part qui chantent, c'est compliqué de les arrêter tous. C'est ça le problème. Et c'est un peu la même, j'imagine, le même fonctionnement en France. C'est pareil.
Fred, en Espagne, la Liga a mis en place des trucs concrets qui fonctionnent. Ouais.
Ça marche. Alors c'est vrai que l'Espagne
les cris racistes en Espagne, il y en a eu.
Il y a 20 ans, 25 ans, voilà. En fait, ce que les gens n'osaient pas faire dans la rue, ils faisaient dans le stade. Et il faut encore reconnaître que celui que les gens n'aiment pas, mais qui fait quand même beaucoup de choses, Javier Tebas, le président de la Ligue, a pris cette question à bras le corps. Lui estime que ce qui est répréhensible dans la rue doit l'être aussi dans un stade. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. En plus, il va au-delà de simple fait de homophobie ou racisme. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Exemple.
Mais comment tu chopes un mec quand il y en a 100 000 qui chantent?
Je t'explique. Il y a des observateurs dans tous les stades qui sont là pour repérer. En plus, c'est vrai que l'Espagne, il y a beaucoup de caméras, etc. Au milieu du public qui regarde. Et il y a eu un classico entre le Real et le Barça où 13 personnes ont été identifiées, 12 ou 13, supporters du Real Madrid qui ont pendant tout le match traité Messi d'attardé mental. Ces personnes ont été identifiées, il y a une plainte contre eux, la Liga a demandé au Real a signalé leur cas au Real, le Real les a identifiés et le Real leur a retiré leur carnet d'abonnement. Ils sont interdits de stade.
Donc ça c'est une piste à suivre pour les Français d'avoir les observateurs dans les tribunes.
13 personnes, ça va encore.
13 personnes qui ont été identifiées. Sauf qu'après, les autres, ils le font plus. Parce qu'ils savent qu'ils sont virés. Et voilà. Bah, tu sais, ça fait l'exemple, prêcher par l'exemple, ça marche. Donc, quand il y a une vraie volonté, et Dieu sait si l'Espagne, ça a été un pays où on disait n'importe quoi, où c'était raciste, homophobe, gouttiste, qui s'est pris dans la tête pendant des années.
Ouais, tout ça parce qu'il était un peu blond.
Comment, pardon?
Samuel Eto'o, rappelle-toi.
Samuel Eto'o, un jour, il a quitté un match. C'était à Valladolid, si je me souviens bien. Il a quitté un match à cause des cris racistes. Aujourd'hui, je vais pas dire que c'est quasiment résiduel en Espagne. Parce qu'il y a le vrai politique et il y a des sanctions. Et on sait aujourd'hui qu'en Espagne, quand on a un comportement indigne, qui rabaisse la personne humaine, eh ben on risque d'être expulsé à vie d'un stade et ben voilà ça. Les exemples de quelques-uns empêchent reste de.
Mais ça
faire
c'est bien,
quoi.
Mais je pense qu'en France c'est pareil quand c'est ciblé sur un joueur vraiment, tu vois, entre des propos homophobes ou racistes ou autre chose, quand c'est ciblé sur un joueur en question, là il faut punir. Mais c'est rare, c'est pas sur ces champs-là hein, que la ministre.
C'est sur les champs qui reviennent automatiquement. Et qui sont repris comme ceux qui étaient Michel tout à l'heure. En Italie, Simone?
En Italie, c'est...
Ouais, ils sont spécialistes des banderoles agressives et des champs.
Sont spécialistes, mais malheureusement, la justice est très hypocrite et je trouve qu'il a deux visages. C'est-à-dire, il y a une très forte lutte contre les racismes, que c'est logique. Tous les chants des singes sont poursuivis encore à l'Inter la dernière fois.
L'affaire Koulibaly
a eu des retours importants dans le monde, mais encore l'Inter a été sanctionné sur les derbies pour des chants racistes contre Kessié. Un match à huis clos pour le virage avec sourcils. Le problème, c'est que tous les autres discriminations n'existent pas. C'est-à-dire, on peut crier gitane à n'importe quel joueur d'origine de l'Est. Ibrahimovic Zingaro, gitan de merde, on lui disait tout le temps, mais encore, tous les Croates, Mandzukic, Perisic, Brozovic, c'est vraiment toujours ciblé.
Oui, une tendance dans les stades en Italie,
par contre,
pays de l'Est, un gitan.
Il y a discrimination considérée territoriale, si on dit,
gitan,
non, ça passe, gitan.
Il y a discrimination territoriale, si tu dis, au Vésuve, lave-les avec le feu, c'est un des chants qui ont fait contre les Napolitains, mais
c'est pas sanctionné.
Ça c'est sanctionné.
Mais les gitans non.
Généralement, c'est jamais sanctionné.
Les chants avancent un nain, il y en a beaucoup, tu sais là-bas.
Les chants sur les ailes sur la tragédie de Turin sont pas sanctionnés. Il y a une hypocrisie, je trouve.
Il y a le même qu'à Manchester, le coup de l'avion, les mecs de la Juve le font au Torino.
Il y a une hypocrisie incroyable sur la façon de juger des faits graves et d'autres graves, mais certains malheureusement passent un peu sont considérés un peu trop folklore.
Ben, il faut quand même reconnaître, Simone, en fait, l'idée de Tebas, de tout inclure, tout ce qui est dégradant pour la personne humaine, c'est, je trouve ça très intelligent. Parce que ça englobe tout.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà. Mais en revanche, la mentalité de Tebas dans la vie privée, franquiste, raciste affiché, ça rentre dans quel cas ça
Raciste affiché, non. Il a déjà été condamné pour racisme, Tebas. Il a déjà tenu
ses opinions politiques, elles sont claires quand même.
C'est un monsieur de droite et qui s'assume.
Non, un peu plus. Non.
Voilà,
il est franquiste ou pas?
Il n'a jamais dit qu'il était franquiste.
Ah bon, moi j'ai pas lu la même interview que toi.
Non. Après, attends, une chose. Enfin, l'Espagne est un pays comme la France où le racisme est interdit et est condamné. Monsieur Tebas n'a jamais été condamné pour propos racistes. Et il faut reconnaître que ce que fait Monsieur Tebas pour nettoyer les stades espagnols de tous les cris racistes, homophobes, dégradants, ça marche. Donc
merci
voilà.
Fredo,
après
merci
on peut
Simone.
Juger les gens comme ça. Sinon
Moi, je pensais que c'était un parti d'extrême droite.
Ouais, 2-0 hein, pour l'Espagne.
C'est un peu plus compliqué, mais je vais te dire, tu sais, ceux qui parlent de la super étoile de la race. Et Dieu sait si.
Non mais les gars, on arrête là.
Ouais.
On arrête de relancer parce que sinon on
Oui, bien allez. Sûr. Mais
on va s'occuper
mais
de
en tout cas, Monsieur Tebas n'a jamais eu de problème pour racisme, voilà. Et il combat le racisme.
Simone, merci. T'as pas pu raconter le but de Verratti, mais on en a parlé tout à l'heure. Il était beau.
C'était les meilleures choses de la soirée.
Une frappe de loin.
Magnifique, incroyable, une frappe
de demi-loin. Magnifique. Qu'est-ce qui lui a pris? Bravo, tu peux expliquer
merci
qu'il est tenté
Simone.
Cette frappe?
Ben, je l'ai vu la semaine dernière. Voilà.
Tu lui as dit.
Et merci Fredo. Pour conclure sur les affaires de racisme, sachez que l'UEFA a ouvert une enquête aujourd'hui contre le Monténégro, puisque hier, lors du match Monténégro-Angleterre, il y a eu énormément de cris et de chants racistes contre les joueurs anglais. Les joueurs anglais, donc voilà, ouverture d'une enquête aujourd'hui par l'UEFA. Attention, changement complet de sujet avec Jean-Luc Guerre, donc qui est avec nous. Et là, alors attention, parce que ça va intéresser les amateurs de foot, mais aussi tous les footeurs amateurs.
Tout à fait.
Parce que non, mais l'outil principal du footballeur, c'est quoi? C'est le pied. Hein. Jérôme Bretagne, tous les matins, il embrasse son pied gauche, qui lui a fait toute sa carrière. C'est-à-dire, le compte en banque de Jérôme Bretagne, c'est ce foutu pied gauche. Heureusement que tu t'en es occupé quand même.
Exactement, je m'en suis occupé, mais Jean-Luc aurait aimé s'en occuper aussi, je suis sûr. Mais j'avais une question, moi, déjà, pour commencer. Tu fais les pieds, tu fais les mains, parce que moi, c'est une main gauche que j'ai.
Ça commence par lui. Ouais. Bon, Jean-Luc. Déjà, est-ce que dans tous les clubs de foot pro aujourd'hui, il y a un podologue?
Moi, je pense, oui, ça se démocratise beaucoup, tout à fait, oui. Ça devient, dans la complémentarité des soins, je dirais même parfois même élémentaire. Les appuis, la posture et le chaussage sont des facteurs à ne pas négliger, vu, on va dire, la recrudescence de pathologies fonctionnelles surtout. Hein. Aujourd'hui, le football, c'est quand même 6 à 8 blessures pour 1000 heures de jeu, ce qui est considérable. Et les plus grands laboratoires de biomécanique internationaux dénoncent le chaussage comme le facteur numéro 1 qui pourrait favoriser, déclencher ou entretenir les blessures, en fait.
À quel moment vous avez eu le déclic, vous vous êtes dit, vous avez les pieds des joueurs dans les mains depuis longtemps, vous voyez, quel moment vous vous êtes dit, il y a un vrai problème, puisque vous venez de le dire, avec le chaussage des joueurs. J'ai du mal, moi, avec ce genre de sensation là. À quel moment vous êtes dit
Charvet,
les blessures sont dues en grande partie à la façon dont les joueurs de foot sont chaussés?
En fait, la chaussure du footballeur a très peu évolué ces 30 dernières années.
On a l'impression qu'elle avait que évolué.
Voilà, donc la chaussure,
la Copa Mondiale, la chaussure un peu épaisse,
la chaussure en cuir épaisse, qui remplace la chaussure en plastique aujourd'hui.
Aux chaussons actuels, parce qu'on a l'impression que c'est des pantoufles aujourd'hui.
C'est très juste, ces remarques, elles sont liées à l'esthétisme du produit. C'est-à-dire qu'on est passé de produits en cuir noir et blanc à des produits en polyuréthane jaune, vert, rose, et à des produits également orientés vers l'illusoire chaussure légère.
C'est donc du marketing, quoi.
Complètement. Mais au niveau fonctionnel, la chaussure est restée la même. Or, dans le football aujourd'hui, Jérôme pourra en parler, l'engagement, la vitesse, l'explosivité a beaucoup évolué. Et la chaussure, non. On a des chaussures qui sont toujours aussi extra plates, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parlait des footballeurs,
la semelle, hein,
semelle,
ça, c'est vrai, c'est quelque chose que à chaque fois je me disais, ces mecs courent quand même. Et
alors pour les chaussures de running,
pour le running, il y a eu des évolutions monstrueuses pour le tennis, il y a des semelles plus grosses, des amortis, des machins. Chaussures de foot, l'esthétisme a vachement évolué, mais à chaque fois on a l'impression qu'on était quand même par terre, quoi,
complètement.
Au niveau de la pied.
Et la particularité, c'est que les chaussures aujourd'hui sont délétères par cet aspect plan. Aujourd'hui, un footballeur amateur qui court sur 2-3 entraînements la semaine et un match le week-end fait une quarantaine de kilomètres par semaine à peu près. Donc c'est 40 kilomètres à peu près effectués avec des espadrilles, c'est-à-dire avec des chaussures planes. Qui aujourd'hui le ferait dans un marathon, par exemple, courir avec des chaussures complètement obsolètes?
Sauf s'il faut des semelles à l'intérieur des pompes.
Après, attention,
aussi.
C'est pas le même terrain. On va vous dire, oui, mais courir sur une pelouse, c'est pas comme courir sur du bitume.
Tout à fait, mais on perd. Dès que la chaussure est plane, inappropriée, on perd en retour, en amorti, en élasticité, en inhibition des vibrations, en protection. Et surtout, sur le motif de consultation numéro 1 en médecine du sport sportive aujourd'hui, c'est les pathologies sur la chaîne musculaire postérieure.
Alors, donc ça, c'est l'arrière de la jambe, c'est mollet.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est 80% des motifs de consultation en cabinet en médecine du sport. Donc, c'est pas trop inquiétant puisqu'on sait très bien traiter les conséquences, mais le souci, c'est traiter les causes puisque les récidives sont données souvent à 66% pour cette même chaîne postérieure. Qu'on soit soigné par des praticiens dans des établissements fédéraux ou en ville, on va être généralement tout aussi bien soigné. Mais c'est la chronicité, les récidives, la récurrence en fait qui est délétère.
Alors 2-3 questions précises. On voit souvent les footballeurs pros, hein, je parle des pros, pas des amateurs, changer de pompe parce qu'en gros l'équipementier arrive avec un nouveau modèle. Donc
ils sont contents même quand les gars
a un
arrive.
Contrat avec Nike, Adidas ou je ne sais qui. Bon ben il est obligé de mettre les nouvelles pompes.
Tout à fait, en fait.
Et le fait de changer tout le temps de chaussures, c'est pas bon, ça, docteur, non?
La particularité, c'est que les chaussures, aujourd'hui, au niveau structural, comme je vous soulignais, elles n'ont fondamentalement pas changé. Elles sont toujours aussi très en retard par rapport à l'intensité, à l'engagement du jeu. Donc, obliger aujourd'hui les joueurs, oui, qui sont sous contrat, puisqu'ils suivent un peu le rythme au fil de l'eau des nouvelles collections, et ils mettent les chaussures qu'on leur donne. Mmh. Quand on a moins de 20 ans, sans souci fonctionnel particulier, qu'on vous fait une offre financière intéressante, ça serait dommage de pas y résister. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la première blessure invalidante chez un sportif footballeur, c'est 22-23 ans. Ça reste assez jeune pour un garçon qui va faire peut-être une carrière de 10 ans de
Qu'est-ce
plus.
Qu'est-ce que vous appelez blessure invalidante?
C'est-à-dire qu'il va vous arrêter 6 semaines. Un ischio, un mollet, un tendon d'Achille, les aponeurosplantaires, en fait, tous les muscles qui vous mènent à partir vers l'avant.
Vous faites que toutes ces blessures-là peuvent avoir pour
un lien avec
cause initiale le problème de la chaussure.
Bah en fait, oui, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types de blessures. Il y a la blessure traumatique, on prend un mauvais tacle, un coup, une béquille, on sort du terrain. Mais dans tout ce qui est fonctionnel, la chaussure, les appuis, la posture vont obligatoirement être élémentaires dans la complémentarité des soins pour ne pas être négligés.
Est-ce que les clubs vont prendre conscience de ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que le lobby, c'est pas le lobby, mais est-ce que le marketing des marques sera pas trop fort? Ou alors est-ce que les marques devraient pas tout simplement vous écouter pour changer leur pompe?
Bah nous aujourd'hui on travaille sur des projets, puisque j'ai une double casquette en fait, puisque je suis également dirigeant d'un projet avec une équipe de chercheurs, de biomécaniciens, d'ingénieurs en...
Vous êtes dit je veux changer ça, à force d'avoir vu ça au quotidien, je me dis je peux créer une pompe, une chaussure de foot qui peut éviter à des joueurs d'être blessés.
En fait aujourd'hui, le seul moyen qu'on avait pour traiter, comme vous l'avez souligné très justement tout à l'heure, c'était de mettre dans les chaussures éventuellement un produit qui puisse protéger, délaisser l'arrière.
Ce qu'énormément de sportifs font.
C'est-à-dire mettre un amorti en fait, c'est
tout
ça?
Tout à fait, mais on va...
Dans mes pompes de tennis, j'ai ça, parce que sinon j'ai un problème au mollet, au dos...
Par expérience, tu perds en confort. Voilà. Ça, c'est sûr.
Normalement, elles sont faites pour être... Moi, franchement, je perds pas en confort à cause de ça.
Dans quoi? Dans les chaussures de foot?
Chaussures de foot ou chaussures de tennis?
Restons sur les chaussures de foot.
Sur les chaussures de foot, sûr qu'il y a les modèles qui changent, et ça, c'est les équipementiers, c'est comme ça. Et dans une...
T'as des joueurs, regarde, Thiago Motta, toute sa carrière, il a gardé le même modèle, le gars. Ouais. Et lui, il voulait garder son modèle.
Exactement.
Là,
mais tu sais que moi, j'ai
Mizuno d'ailleurs.
Moi, j'étais chiant. J'ai connu la génération, du moins les deux générations, c'est-à-dire au début, moi, quand j'ai débuté, c'était la Copa Mondiale, la chaussure de référence, c'était le cuir. Le cuir de vachette. Donc il n'y avait pas que la Copa Mondiale, il y avait d'autres marques qui faisaient aussi ce même genre de chaussures. Je jouais en loto souvent. Les lotos, on pouvait comparer ça à la Copa Mondiale, comme Puma King, qui existe encore.
Tout à fait.
Ce cuir, en fait, tous les joueurs jouaient avec du cuir comme ça. C'était cuir et chaussures noires. Dès que tu mettais une chaussure de couleur, du moins blanche, parce qu'il n'y avait pas 20 000
Marco
couleurs.
Marco Simone, l'un des premiers.
Exactement. Tout le monde disait, ouah, lui, il se prend pour une star et ceci, cela. Non, mais c'est vrai, c'était ça. Aujourd'hui, le joueur qui joue en chaussure noire, c'est lui qui choque. Et c'est vrai, et moi j'ai connu cette évolution-là. Et après, il y a les marques, en effet. Il y a les marques qui te font...
Ah, les marques, c'est parce qu'il y a de l'oseille, il y a le contrat.
Non, mais les marques, ils ont développé un modèle, et aujourd'hui, c'est quasiment plus du cuir. Il y a très peu de joueurs qui jouent avec du cuir.
C'est que cuir ou matière actuelle, mais ça change rien dans le.
Oui, t'expliquer. Si, parce que ça joue sur le fait de renouveler les modèles. Tu sais, quand vous disiez, ils jouent avec des chaussures neuves. C'est vrai que maintenant, il y a des joueurs, ils ont même pas mis les chaussures à l'entraînement, ils les ont même pas testées, qu'ils les mettent déjà pour jouer les matchs. C'est la vérité.
Ça arrive.
Et moi, j'étais incapable de faire ça parce que je conservais ce modèle de cuir. Mais les nouveaux modèles font que t'es pas obligé de les avoir fait, les avoir cassés comme on disait à une certaine époque, une semaine avant pour pouvoir jouer le match. Et ben ça, si tu veux, au niveau du confort, ça joue. Et que pour en revenir à ce que tu disais, quand tu rajoutes des semelles dans ces chaussures là. Eh ben forcément, t'as une sensation de moins bien, quoi.
Concrètement, oui, allez-y.
C'était pour rebondir sur ce que disait très justement Jérôme en parlant des semelles pour répondre à votre question. En fait, on trouve très rapidement les limites de ce que peuvent faire les semelles comme profit véritablement sur l'ensemble des pathologies fonctionnelles. Et on perd en volume chaussant à l'intérieur. Donc l'idée, c'était d'avoir une chaussure qui soit au niveau structural, la plus profitable possible et la plus économique possible pour le sportif. Et partir des pathologies les plus rencontrées et faire un chaussant qui soit le plus profitable et le plus économique. Et là, donc, on a créé sur ce chaussage un drop préexistant sans perte du volume chaussant, et en plus c'est un drop qui est amovible, qu'on peut complètement moduler selon le poids du sportif. C'est à dire, imaginez que vous chaussiez aujourd'hui un...
Vous pouvez faire des chaussures sur mesure, quoi.
Ben en fait c'est une chaussure qu'on a mis au point qui est aujourd'hui un produit qui est déjà au niveau fonctionnel personnalisable. C'est-à-dire que si vous avez un jeune de 15 ans qui chausse du 43 et qui fait 60 kilos, il n'a pas besoin du même amorti qu'un homme qui chausse du 43 et qui fait 80 kilos.
On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord,
question concrète.
Attends, est-ce que les pros sont réceptifs à votre message? Il y a plein de problèmes Neymar, blessure au pied, par exemple.
Ah, c'est ça, moi, je voulais la question concrète, c'est ça.
Une anecdote, là, que me raconte Florian. Ismaïl Assar, le gars arrive à Metz, le staff se rend compte au bout de quelques mois qu'il avait des pompes, une pointure et demie en dessous de sa vraie pointure. Le mec, il avait toujours joué avec ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, personne ne l'avait regardé, quoi. Et on se rend compte de ça. Il a fallu lui réapprendre à courir. C'est quand même incroyable. Il y a des histoires incroyables.
Effectivement, on voit des non-sens parfois un petit peu dans le choix des chaussures, mais la chaussure, elle est régie par le code du travail. Il faut savoir que le chaussage du footballeur, oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un club du bonnet aux chaussettes sous un équipementier, vous mettez ce que vous voulez au pied. C'est-à-dire que la chaussure, c'est un véritable. C'est un outil de travail, la chaussure. Voilà, il faut considérer ça comme un outil de
choisir.
D'accord.
Ouais.
Et qu'est-ce qui est plus lucratif, parce que vous parlez de sponsoring, c'est de toucher quelques émoluments par an ou de faire 2-3 ans de carrière supplémentaire? Finalement,
c'est dur à faire comprendre. Ça, mais ça viendra peut-être. Vous êtes peut-être dans la démarche de le faire comprendre, mais je suis pas sûr que le joueur de 20 ans, 22, qui va signer son premier contrat avec Nike, qui va faire pub et tout, il entendra ça. Ça va être un combat.
C'est une très très bonne remarque. C'est très juste. Mais tout doucement, on y arrive en fait. Au fil de l'eau, on voit de plus en plus d'intérêt. Et puis il y a les laboratoires qui en parlent. Et puis on voit de plus en plus de blessés. La récurrence des pathologies, ça coûte très très cher au club. Ouais, ça fait rater des grands rendez-vous, on le sait tous, aux joueurs.
Bah alors Neymar, avec ça deux fois la même blessure, je pose la question comme ça, avec des bonnes pompes, il se blesse moins.
La particularité, comme je vous le dis, je pense qu'il doit être entouré de professionnels et un staff médical brillant, obligatoirement. Mais je pense qu'ils ont dû sincèrement apprécier ses appuis, sa posture et son chaussage. Faut savoir que c'est comme une pathologie récidivante.
Ah oui.
Donc il y a quand même des choses élémentaires à apprécier. Comme je vous dis, dans la complémentarité des soins, traiter les conséquences, c'est très très bien. Traiter les récidives et la chronicité, c'est une autre chose. On doit avoir vraiment le souci du détail. Le chaussage, c'est vraiment fondamental et élémentaire. Dans chaque sport,
l'équipe médicale au PSG ou tous ceux qui l'ont entouré vont soigner, vont faire attention à ce qu'il y a, mais ils vont pas prendre la base du problème, qui est soit le chaussage, soit un autre problème dans le pied, enfin je sais pas.
Ils sont capables de le prendre quand même.
Je pense que...
Soigner le gars.
Je pense que quand on a un professionnel comme Neymar dans son groupe, on a obligatoirement le souci du détail. Ouais. Et là, le détail, c'est le chaussage aussi. C'est vraiment fondamental.
Est-ce que quand vous voyez certains gars mettre des nouvelles pompes, parce qu'ils viennent vous voir, par exemple, parce qu'ils vous disent tiens Doc, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Est-ce que vous me conseillez de le prendre? Ou alors est-ce que je dois les dégager? Ils font la démarche vers vous, les pros en général, ou pas trop?
De plus en plus aujourd'hui, puisque ils connaissent mon intérêt également pour le chaussage. Ça fait 20 ans que je suis dans la recherche et les travaux, un petit peu dans l'innovation au service du sport et de la santé. Dans le domaine du chaussage, on travaille sur des brevets internationaux qui sont connus, c'est notoire. On a fait les plus grands congrès internationaux biomécaniques en Europe. On a montré en disant, faites attention, regardez ce que sont les chaussures, regardez ce que ça devrait être. Normalement, pour limiter les blessures, même au niveau du cramponnage, par exemple, on voit des crampons triangulaires, hexagonaux. C'est une hérésie totale. Comment ça peut être possible
sur les synthétiques, par exemple?
Il y a des choses extraordinaires, des pathologies récurrentes sur les genoux. Jérôme, à son époque, qui était pas bien ancienne d'ailleurs, quand on se faisait les croisés sur un genou, on se les faisait rarement seul. C'était dans un contact, dans un choc. Aujourd'hui, sur des réceptions au sol, 4 fois sur 5, les lésions ligamentaires du genou se font seul, sur une prise d'appui.
Ah oui.
Fondamental, le chaussage est encore l'un des facteurs élémentaires à ne pas négliger.
Mais vous êtes à l'OM aujourd'hui, vous sensibilisez les gens, le club à ça. Est-ce que le président de club ou l'homme qui décide de ça peut dire écoute, j'ai trop de blessés là. Il n'y a pas Thauvin qui avait un problème de chaussures là, c'était que son histoire là. Est-ce que le club peut dire maintenant vous allez écouter le doc et il a des pompes. On va dire magique entre guillemets.
C'est Garcia qui avait parlé du problème de Thauvin et Galias.
Oui, c'est, il y avait, c'était quoi le problème de Thauvin là, ces pompes?
Il est notoire puisque le coach Rudy Garcia en a parlé. Et d'ailleurs, je vous invite à relire ses déclarations. C'est plus simple parce que moi, je suis voué au secret professionnel et vous l'imaginez bien par code déontologique et éthique. C'est tout à fait naturel. Mais il avait un problème fonctionnel très très simple où tout le monde s'est à un moment donné soucié de lui trouver des solutions. Donc il y a un staff, c'est pas isolément un praticien podologue, c'est toute une équipe qui travaille. On a des professionnels brillants. Il y a quand même aujourd'hui dans le staff des médecins comme Franck Le Gall qu'on connaît bien, avec qui est champion du monde d'ailleurs, Monsieur Jacques Taxil, et des kinés brillants. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Donc dans cette complémentarité de soins, à un moment donné, il a fallu faire un travail aussi artisanal sur le chaussage, parce qu'on est un peu des cordonniers des temps modernes en podologie, et il faut avoir des solutions à tout moment, à toutes les démarches pour pouvoir justement satisfaire les
sportifs. Je reprends Freddy Garcia, parce que j'ai les déclarations sous les yeux. Il dit il faut absolument qu'on voit avec l'équipementier de Thauvin, souci au pied, il faut adapter ses chaussures, elles lui font mal, le souci est au talon, dit Garcia. D'ailleurs, il vous cite, d'ailleurs, il dit, il faut qu'on voit ça avec notre podologue consultant Jean-Luc Guerre, qui est super performant. Il vous a rendu hommage, là, Rudy Garcia,
d'accord,
en l'occurrence.
Donc,
c'est déclaration.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est problématique quand le joueur, t'as des problèmes comme ça, avec tes chaussures. Et on connaît, les joueurs sont des produits marketing de toute façon, et encore plus quand ça parle de marque de chaussures, va faire comprendre à ton équipementier qui te verse tant de primes, tant de ceci, tant de cela, et tu dois mettre le modèle pour le montrer pour la jeunesse et pour le mettre en avant. C'est compliqué, hein, à faire comprendre tout ça.
L'histoire, c'est qu'aujourd'hui, depuis 25-30 ans, si nous, réunis, connaissant bien le football, on essaye de trouver une technologie véritable qui a duré des années et reconductible, on peut pas citer, à part nous avoir mangé l'esprit avec l'illusoire légèreté. D'ailleurs, pour parler du poids des chaussures, on se rend compte que les chaussures qui sont légères sont plus délétères que des chaussures trop lourdes. Parce qu'on perd en stabilité au niveau proprioceptif, on perd en renvoi, on perd en dispersion des vibrations, on perd en consommation d'énergie, c'est affolant en fait.
On va pas plus vite quoi.
Et puis on va pas plus vite non plus.
C'est une sensation encore le joueur, parce que là aussi je l'ai vécu.
Ça vaut aussi pour les amateurs. Donc n'allez pas forcément vers les chaussures ultra légères.
Mais c'est vrai que quand tu testes les deux, tu prends la chaussure qui est plus lourde et surtout par temps de pluie.
Tu te dis j'ai des pieds beaux, je vais pas avancer quoi.
Non mais c'est sûr. Et t'as la sensation qu'avec l'autre, t'étais plus léger, plus ceci. Alors que, franchement, en termes de stabilité déjà, moi je compare. Alors après, moi je suis à la vieille école. C'est vrai que je préférais le cuir, donc les chaussures plus lourdes. Mais l'autre, j'avais l'impression de ne pas avoir d'être pas stable quoi. Moi j'ai découvert avec l'auto. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait la campagne de pub à l'époque. C'était avant la Coupe du Monde 2006. C'est la chaussure sans lacets. Tu te souviens ça? Cette chaussure-là qu'on avait lancée, c'est la première innovante. On était parti en Italie là avec, c'était Cafu qui était là aussi, qui représentait cette chaussure-là. Déjà pour la mettre, c'était un bordel. Mais alors après, écoute, il y a eu non mais c'est vrai. Et je sais plus quel joueur la portait en même temps que nous. On était 3-4 à la porter. Le premier joueur, il y en a un qui s'est blessé direct. Et tout de suite, ils l'ont retiré. Ils nous ont dit bon, vous avez le choix. Vous pouvez faire la Coupe du Monde, la fin de saison, avec la chaussure de votre choix, sans lacets ou les autres, pas de problème. On va revoir le modèle. Aujourd'hui, sans lacets, si t'as le genre d'aspect comme ça, je crois que c'est Nike qui a sorti derrière.
Oui, un
derrière.
Peu de chausson comme ça.
Ouais, exactement. Il y avait quand même des lacets sur le côté.
Alors, on va continuer le débat. 32-16, il faut qu'on fasse une pause. 32-16, si vous voulez participer. Puis on va parler de votre projet aussi, puisque vous développez du coup des modèles. Vous avez adapté un modèle.
En fait, c'est
caractéristique du foot. On en parle dans quelques instants, Jean-Luc.
Très très bien.
Pas, on revient tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Dans quelques minutes, on va parler du Stade Brestois, équipe type, équipe pipe. Vous connaissez la tradition dans l'after, mais pour l'instant, on parle de vos chaussures, vous, les footballeurs, avec Jean-Luc Guerre, qui est podologue et qui bosse à l'OM. Juste deux, trois messages aux footeurs amateurs. Parce que bon, là, on parle des pros. Enfin, l'amateur qui va, ça se passe souvent comme ça, qui va à Decathlon, à Go Sport, bon, qui a le souci du prix, quand même, qui se dit, moi, j'ai pas un budget énorme, qui prend parfois forcément le tout premier prix, mais enfin, qui fait plus son choix en fonction du prix qu'en fonction des caractéristiques de la chaussure. Quel conseil vous donneriez aux footballeurs amateurs?
Je pense que le premier conseil à donner aux footballeurs amateurs, c'est de rencontrer son podologue du sport déjà avant de démarrer, pour faire un bon bilan de ses appuis, de sa posture. Et ensuite, je pense que c'est en binôme qu'il va le faire dans l'orientation, soit de sa chaussure avec son praticien. Puisque le chaussage va être, on va dire, orienté selon son morphotype de pied, ses appuis. Et là, le praticien pourra le guider pour limiter la marge d'erreur. Mais après, pourquoi pas lui confectionner des orthèses pour suppléer un peu les chaussures. Parce qu'en fait, l'idée, c'est
semelles,
que...
Hein.
Voilà, les orthèses plantaires, donc ce qu'on appelait les semelles orthopédiques, pour permettre aux sportifs, donc aux footballeurs, amateurs, peut-être de faire les mêmes efforts avec moins de blessures, moins de chronicité dans son problème rencontré, et d'avoir peut-être un meilleur chaussage, parce que une même chaussure pour 10 joueurs ne va peut-être pas convenir. Il faut déjà qu'elle soit dans une conformité, même au niveau architectural, convenable. Donc
aujourd'hui, les footeurs amateurs, faut pas se mentir, hein, il y en a 9 sur 10, ils choisissent leur pompe en fonction du design de la pompe.
Oui,
jolie, j'aime bien.
Je pense qu'on va y revenir, puisque tout doucement, par la multiplicité des blessures, des grands rendez-vous qu'on rate, quand on en a marre d'être 6-8 semaines par an sur le banc de touche, d'avoir à se dire je suis à 70% de mes moyens le reste du temps.
Mais en fait, ce qui vous faut, parce que donc on a bien compris votre projet, toutes vos recherches, et vous êtes en train de mettre en place une ligne de chaussures.
Tout à fait.
Ça se fera forcément par le biais de quelqu'un qui va porter vos idées, votre projet.
C'est clair.
À notre époque, on sort pas de ça. Il va vous falloir 2-3 champions qui vont dire à quel point vos chaussures ont révolutionné la pratique du sport. Sans ça, vous resterez, on va dire, avec des chaussures pour gens malades, quoi, des chaussures de médecins.
La particularité
chez le grand public, il va falloir que quelqu'un le porte, le message.
Complètement, vous avez entièrement raison. Et la particularité, c'est que c'est à la fois de la protection, de la prévention,
ouais.
Mais c'est pour de l'efficience aussi, c'est de la performance. Ouais. C'est les mêmes efforts
à communiquer là-dessus.
Oui, parce que le produit...
Les performances sont même meilleures.
Oui, parce que là, c'est le produit qu'on a mis en place aujourd'hui par rapport
à... Ça s'appelle WizWedge. Hein.
Tout à fait, W-I-Z-W-E-D-G-E.
Voilà. Donc certains joueurs pro portent d'ailleurs.
Tout à fait, il y a déjà des pros qui, obligatoirement...
Pourquoi à l'OM, ils mettent pas tous vos pompes?
Parce que les joueurs sont sous contrat pour certains, et qu'aujourd'hui...
Et vous n'allez pas les convaincre?
En fait, mon rôle aujourd'hui, on va dire intramuros, c'est de soigner les joueurs,
oui,
de respecter leur équipementier, et de les aider à pratiquer leur métier. Après, le projet que je mène, c'est un projet privé que je mène depuis 20 ans, parce que ça fait 15 ans que je suis à l'Olympique de Marseille, en Ligue 1, aussi bien sur le terrain qu'en cabinet. Donc, j'ai l'habitude de voir des professionnels du sport. Mais j'ai tout autant d'intérêt pour les amateurs. Et avec cette proximité, comme vous soulignez tout à l'heure, en étant praticien, de refaire du conseil. Quand c'est pour les pros, comme le soulignait Daniel très justement, aujourd'hui, il faut séduire les gars, pas uniquement en leur disant, voilà, ça va être pour contenir et limiter la récurrence de ta blessure, mais également pour avoir l'espoir d'être efficient. Donc c'est pour donner un côté pour la performance.
Est-ce qu'il y en a qui les ont portés, qu'on dit que c'était top?
Beaucoup aujourd'hui. Par exemple, vous avez un garçon qui souffrait de la même pathologie que Flo Thauvin, qui s'appelle Romain Alessandrini, qu'on connaît bien, qui évolue en MLS aujourd'hui, qui était
à l'OM,
très gêné, qui était on va dire invalide à un moment donné avec son problème récurrent. Aujourd'hui, il est équipé avec ses chaussures WizWedge. Vous le voyez, il a été élu meilleur joueur de la MLS il y a quelques temps. Donc
au-delà de ça, il est moins blessé.
Il est très très bien.
Tant mieux s'il réussit, s'il brille. Mais l'idée, c'est en plus la performance devient meilleure.
Tout à fait. L'intérêt, c'est l'efficience. C'est l'efficience.
Donc là, vous, c'est intéressant. Donc vous rajoutez de l'amorti.
Voilà, donc en fait la chaussure, elle a un drop.
Un peu comme les chaussures de running, c'est-à-dire que le talon est un peu surélevé.
Voilà, la particularité, c'est que la chaussure a un drop, contrairement au fait de mettre...
Qu'est-ce qu'on appelle le drop? Parce
que... C'est un dénivelé entre l'arrière et l'avant.
Voilà.
Voilà, et ce drop, en plus, l'ingéniosité, c'est qu'il est amovible. C'est-à-dire, si on veut un peu plus d'amorti...
Du coup, on sollicite moins l'arrière de l'arrière, les mollets...
C'est des tonnes et des tonnes de traction en moins sur la chaîne postérieure. Rien que ça, sur une heure et demie de match, vous sortez du terrain, vous avez 30% de fatigue en moins. La particularité, c'est que aujourd'hui, par rapport à une chaussure traditionnelle en moyenne, on a 80% d'action anti-vibratoire en plus sur les muscles et les tendons. C'est pas 2%, c'est 80%. On a 40% de contraintes en moins dans les tissus osseux avec cette chaussure-là. C'est-à-dire qu'un enfant en période de croissance, qui a une ostéochondrite de croissance sur les genoux, un os gauche latéral ou une maladie sévère sous un talon, c'est tout aussi profitable pour lui que pour un garçon
de... Hein, mais c'est sur les gamins en mal aux genoux.
Les problèmes de croissance, ou alors tout simplement...
Jeunes footeux, en fait,
ou un garçon qui s'est fait, dans un programme de raclétisation, les croisés, qui veut revenir et protéger ses ménisques et son cartilage.
Pourquoi une marque ne viendrait pas vous voir, je sais pas, Nike ou Adidas, on va mettre votre science dans nos chaussures, c'est-à-dire qu'on va allier le côté marketing machin à la science du médecin.
C'est ce qu'on a aujourd'hui. On a depuis ces 6-8 derniers mois des contacts très rapprochés avec des grandes marques qui viennent nous rencontrer pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'est ce produit. Parce qu'ils ont vu les joueurs pros s'en être équipés et être beaucoup mieux.
On parle des chaussures.
Ils sont rapprochés, ils veulent faire leurs chaussures, quoi.
Tout à fait.
Arriver.
On parle des chaussures, mais parlons un petit peu des pieds. D'accord. Parce qu'un pied de footballeur, en général, c'est assez moche.
Souvent, il est un peu pourri.
Ongle noir.
Ça, c'est dû à quoi?
Parce que tu te fais marcher dessus. Mycose. Est-ce que les footballeurs.
Mycose, c'est parce que les douches sont pas bien propres.
Mais des claquettes, hein.
Non, mais c'est vrai, mais moi, je sais que. Non,
mais ça, c'est des claquettes, vieux.
Moi, souvent, je vois les pieds de footballeurs, je me dis, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, là? Alors, vous allez me dire, vous êtes podologue, vous êtes pas de pédicure, hein, évidemment. Est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les footballeurs font vraiment attention à leurs pieds?
Alors, aujourd'hui, le praticien, en cabinet ou, en club fédéral ou en Ligue 1, va être à la fois chargé des soins, par cette proximité, faire le suivi pédicural médical, suivre le gars qui a un hématome sous un guéal, un hématome sous un ongle et des soins divers, et en même temps suivre un petit peu, avoir un regard dans ses chaussures pour voir si le gars porte ses orthèses, si le chaussage va bien. On est vraiment dans de l'accompagnement, quoi. C'est vraiment un package, en fait. Donc souvent, le praticien podologue assure les soins dans la complémentarité de ce qu'il assure auprès des joueurs. Ça, c'est fondamental.
Et le bilan que vous faites, vous, c'est qu'ils font attention?
Oui, ils font attention. Oui, de plus en plus, bien sûr. Bien sûr, le pied, c'est fondamental. Les garçons ont l'habitude, de façon hebdomadaire, à venir se faire soigner, à prendre ils ont le souci de leurs chaussures pour les préparer. Comme disait très justement Jérôme avant un match, de les casser, de les préparer. Donc il y a toute une procédure qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus souci du pied, souci de sa chaussure. Et puis on commence à faire la corrélation entre le pied, le chaussage, les blessures. Ça vient tout doucement, puisque les grandes marques commencent à s'y intéresser, se rendre compte qu'il y a eu.
Mais il y a un rapport. Enfin, je vous coupe, mais je sais pas si vous vous souvenez, Jérôme, Daniel et Jean-Luc, mais quand on était gamin, on voyait des photos notamment de Girès qui prenait ses pompes, il prenait des heures à cirer ses pompes, il mettait dessus des trucs.
Aujourd'hui, il expliquait,
moi je garde une pompe tant de matchs, enfin il avait une stratégie.
Oui, mais déjà la chaussure était différente, voilà. parce que avant en effet c'était du cuir, donc bien sûr t'avais le plaisir de préparer ta chaussure, de mettre de la graisse derrière, de mettre du cirage, c'était ça. Mais ça s'est perdu au début des années 2000.
Ça, c'est très clairement, normal, c'est dès qu'elle est usée, tu la changes.
Et complètement. Mais non, mais en plus, et puis quand c'est pas du cuir, tu vas pas aller mettre du cirage sur du cuir. Tu les nettoies à l'eau et voilà, ça s'en va. Et c'est vrai qu'il y en a, elle dure beaucoup moins longtemps aujourd'hui qu'avant. Avant, tu pouvais garder des chaussures. Moi, je me souviens, la moyenne,
le c'était. Le joueur de tennis, chaque match, une pompe neuve.
C'était deux, trois paires de chaussures dans l'année. Quand j'ai commencé. Après, tu passes à 6 ou à 7. Non, parce que moi, je faisais attention. J'aimais bien jouer avec mes chaussures. De quoi?
Toi, une paire par match.
Il y en a beaucoup qui ont essayé.
C'était ton équipementier.
Il y en a beaucoup qui ont essayé.
Mais j'en ai fait briller.
Ah, j'en ai fait des belles pubs, hein, je peux te le dire. mais ce côté-là, c'est vrai qu'après, la chaussure, elle est plus fragile. Aujourd'hui, elles sont tellement légères. C'est ce qu'on disait. Il suffit de prendre un tacle. Ça y est, elle s'ouvre en deux. Tu vois, ça tient. Même sur des appuis. Moi, j'ai vu des chaussures se dérober rien que sur un appui. Et la semelle, elle se déchire. Moi, et pourtant, elles sont neuves.
Quand une marque va venir frapper à votre porte et dire, faites-nous les pompes, on va faire les pompes ensemble, c'est la vraie révolution, elle sera là. Moi, je souhaite que votre marque soit connue, effectivement, et qu'il y
ait très bien.
Bah, déjà. Façon-là. Mais ça peut surtout passer par là, non?
Mais ce qui est intéressant, juste pour finir là-dessus, c'est vrai que ce qui est intéressant et ce que tu dis, Jean-Luc, c'est que, il faut que dans la tête des joueurs, et de plus en plus, c'est pour ça que tu disais le joueur de foot, bien sûr qu'aujourd'hui le joueur de foot il fait attention à ses pieds, parce qu'on lui répète ce qu'on nous répétait pas quand on était plus jeune avant, ce qu'aujourd'hui on répète, c'est un lien avec les blessures, avec tes performances aussi mine de rien, parce qu'il faut bien se sentir dans la chaussure et être à l'aise. Il faut être à l'écoute de tous les gens, de tous les services médicaux qui sont en place et tous les clubs pro aujourd'hui, tous. Hein.
Et moi je retiens, c'est allez voir votre podologue, même si vous êtes footballeur amateur ou runner, hein, c'est important.
Moi je te dis juste une anecdote à 3 pour te dire qu'avant ça, à 3 j'ai signé en 2000-2001. Je prends un coup à l'entraînement, à veille de match. Donc mon ongle devient noir. J'avais un hématome en dessous. Impossible. Tu dors pas de la nuit, hein, dans ces cas-là. C'est taper la tête contre le mur. Alain Perrin, qui était mon coach, le matin, je me lève, je boitais, je pouvais même pas mettre ma tennis, donc descendant en claquette au petit-déj. Il me dit, oh, bah, tu peux pas, il faut jouer ce soir, il faut jouer. Ben, lui, il fallait toujours jouer. Je dis, bah, je peux pas jouer. Il dit, bah, j'appelle, hop, tu vas aller en ville, là, et il y a un pédicure qui va te prendre. Voilà. Écoute, il connaissait rien du sport de haut niveau, hein. Il arrive, il voit ça, donc il m'a découpé l'ongle, mais j'avais quasiment plus d'ongles. Et j'ai dit, mais attendez, mais Doc, comment je fais? Je peux pas jouer ce soir, moi j'ai plus d'ongles. Mais tu sais que quand t'es à vivre comme ça...
Arrête, ça me fait mal.
Ah ouais, et il m'a dit, bah là, il faut mettre une protection, mais ça, il fallait me le dire. Je dis, bah, quand il fait j'ai un match le soir. Je suis rentré à l'hôtel pour retrouver mes coéquipiers. Perrin, il m'a dit, non, mais écoute, tu vas jouer ce soir. Ils m'ont mis un...
Grosse poupée.
Ah ouais, j'ai souffert le martyr sur les premières minutes.
Ouais.
Après, t'oublies avec la fatigue et tout. Mais tu vois, pour te dire, ces anecdotes-là, aujourd'hui, il y en a plus. Ça existe plus.
Dernière question, Daniel.
Ouais, très très importante. Est-ce qu'avec votre modèle de pompe en finale de l'Europa League, NG, est-ce qu'il aurait cadré son extérieur du pied?
Ça, c'est pas. Je n'ai pas envie de répondre.
Est-ce que vos chaussures peuvent arranger les pieds carrés, en gros? C'est ça la vraie question.
Ah non, ça, malheureusement, je crois que.
On optimise les problèmes fonctionnels, ça, c'est encore un autre débat, oui.
Ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le projet.
La chaussure télécommandée.
Donc, ça s'appelle With Wedge, hein. Le projet.
De la pub de Jérôme.
Les
caisses qu'ils font,
On a mis la pub de Jérôme pour l'auto, oui.
Ils avaient mis la rapidité. C'était pourtant pas ce qui te caractérisait.
Bah si, la rapidité d'exécution.
Robot Roten.
Jean-Luc Guerre, merci. On donnerait la réaction de footballeurs qui sont très heureux, qui disent, ah bah, j'ai appris plein de trucs, les marques nous enfument, etc. Donc, voilà.
Ah, mais ça, on le savait, mais c'est...
Voilà, j'en dis, With Wedge, donc allez voir. Merci
beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, à très bientôt.
Bon courage, Jean-Luc.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, on part à Brest, à base de Patrick Colter, de Bernard Lama et autres.
Vincent Guérin.
Et autres Vincent Guérin, exactement. L'équipe
Paul Le Guen
de l'histoire.
Roberto Cabanas,
le chercher.
Ah oui, tu l'as oublié.
Allez, à tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, attention, équipe type, comme de coutume. Je vous donne le programme. Ce soir, c'est Brest. Demain, c'est Guingamp. Eh oui, Coupe de la Ligue oblige. Et jeudi, messieurs, dames, c'est Strasbourg. Et là, j'ai tout préparé.
Ça va être vite fait à Strasbourg.
Attention, nous accueillons un historique du stade brestois. Il a tout fait à Brest. Je peux vous dire que c'est l'âme du club. Hein. Il y a Ivinec et Jackie Le Gall qui est avec nous. Jackie, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir parce que, de Patrick Colter à Stephen Brun, tout le monde vous connaît à Brest. Hein.
Ouais, ça je pense, oui. Ça c'est vrai.
Bah, si un jour t'es à la Francis Leblé, t'as croisé Jackie.
Ouais. Speaker.
J'étais speaker historique pendant 15 ans, mais c'est surtout que je filme le club depuis 1977. C'est ma 42e saison que je filme le club et fais les commentaires sur la chaîne TBO, la TNT locale.
Magnifique. Bah alors, Jackie, donc vous êtes parfaitement bien placé pour nous livrer votre équipe type de l'histoire du Stade Brestois.
Alors ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il y avait le côté cœur ou le côté des joueurs qui ont marqué le club.
Ah ben non, là, il ne faut pas faire de romantisme.
Voilà,
mais
je
t'as bien expliqué le concept à Jackie, hein.
Bien sûr.
Parce qu'il y a eu énormément de stars qui sont passés à Brest, mais qui n'ont pas forcément marqué l'histoire du club dans le sens où ils ne sont pas restés longtemps, vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
On y va.
Alors, gardien de but. Et ça part de l'année 65 jusqu'à maintenant. Dans le gardien de but, c'est Steve Lennart. Donc 7 ans. Hein, des années 2005-2012. Voilà. Et Steve Lennart.
Steve Lennart, oui, d'accord.
Devant Lama ou Goycochea Cochea?
Oui, devant Lama qui est resté une saison et devant Goycochea qui est resté aussi comme un an et demi.
Et ça n'a pas été une réussite quand il est venu.
Et pourtant, c'était une star, Goycochea, faut le rappeler quand même.
Oui, mais ça n'a pas été une réussite.
Gardien argentin, Coupe du monde 90.
Ça n'a pas été une réussite à Brest.
Non, ça n'a pas marché à Brest. Moi, je m'en souviens, c'était.
Alors, la défense.
La défense, donc, c'est Patrick Colletter, on en parlait, qui a fait le centre de formation avec Ivarch, Le Guen, Martins, pendant 8 ans, d'accord? Hein, et c'est un Tizef. Vous savez ce que c'est un Tizef?
Non.
Ben, c'est l'habitant de Brest.
Très bien.
Voilà. Hein. Le troisième, Yvon Leroux, qui a commencé à 17 ans, et le premier Brestois sélectionné en équipe de France.
Et quand
il a sa première sélection contre la Yougoslavie, il marque son premier but. Il a joué 7 ans, ensuite Nantes, Marseille, PSG. Voilà. Ensuite, j'ai choisi... Alors, c'est un choix parce que c'est l'homme qui m'a impressionné. Qu'est-ce qu'il a fait? José Luis Brown, 1987, qui marque le premier but avec l'Argentine. Oh,
buteur en finale de la Coupe du Monde 86, hein, Louis Brown.
C'est ça, c'est dingue.
Le but de la tête.
Moi, c'est un truc, Jackie, qui m'a toujours bluffé avec Brest. C'est que Brest a eu des joueurs.
Et d'attirer ces joueurs.
Incroyable. Ah, Rossi et Louis Brown à l'époque, c'était mec, voilà, tu.
Bah, Goygoetxea aussi, c'est ouais. L'Argentine, ouais.
Et Julio César, qui arrive aussi en même temps que Rossi et Louis Brown. Pourquoi je prends Rossi et Louis Brown? Parce que c'est un mec, il avait gagné la Coupe du Monde. Il avait une immunité extraordinaire. Le club avait un partenariat avec une marque, qui était Peugeot. Mm-hmm. Il met une 205 à disposition, il dit rien, il la prend. Julio César arrive, il voit 205, il la rend, il va chez Mercedes prendre la plus grosse voiture. Et José Luis Brown, quand il arrivait dans le vestiaire, il allait serrer la main de tous les joueurs. Extraordinaire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. En 5, j'ai mis Richard Honorine. Pourquoi? Parce qu'il a passé sur ses 20 ans de carrière, 15 ans à Brest, des années 74.
Richard Honorine, hein.
Voilà. Parce que 15 ans au club à 3 reprises en 20 ans de carrière. Voilà. Il a marqué aussi, il a joué à Brest, il a joué à Metz, voilà.
Très bien. Donc la longévité qui prime. Alors on passe au milieu de terrain maintenant.
Alors j'ai choisi celui qui pour moi a marqué les années 65-75. Bon, les anciens Brestois se souviennent, il s'appelle Jean-Claude Delorme. C'est un vrai numéro 10. Et entre autres, il a en 1972. Lors d'un match contre l'OM de Skobler et Magnusson, il marque à 10 minutes de la fin. Brest fait 1-1. Il y a 6000 Brestois au Havre. Et Skobler va mettre un but extraordinaire de 3 mètres en pleine lucarne. Et c'est des images que j'avais filmées en film cinéma de l'époque. C'était la première fois que je filmais le club. 72 au Havre.
Magnifique. Bravo. Delorme. Alors, de l'histoire. Ensuite, au milieu.
Jean-Claude Delorme. Au milieu, Paul Le Guen.
Normal.
83-89. Alors, il faut savoir qu'il était à l'AS Brestoise. Le club laïque, Brest était un patronage à l'époque, pas l'oublier, et c'est Jean-Claude Plessis, qui était ensuite président à Sochaux, qui l'a donc amené à Brest, au Stade Brestois.
Oh, il était avec nous l'autre jour, Jean-Claude Plessis, pour nous faire l'équipe type de Sochaux.
Eh ben voilà, tu peux lui demander.
Et Paul Le Guen, il est finistérien ou du Morbihan?
Non, il est à côté de Brest.
Il est finistère, lui, hein.
Ouais. Est-ce que vous vous rappelez comment Michel Denisot le surnommait?
La patate, oui, la patate de Pancran, c'est ça?
Et pourquoi?
Parce que c'est son village natal.
C'est son village natal et on y cultive des patates.
Ah bah voilà. Mais ça, par contre, je ne savais pas qu'on y cultivait des patates.
Ah, oui, ouais, entre autres, il n'y a pas que ça quand même.
Alors, pour compléter le milieu.
Ah ben, un qui n'a passé qu'un an, mais qui a marqué l'histoire du Stade Brestois, c'est Franck Ribéry.
Ribéry.
Ah oui, pourquoi? Pourquoi il a marqué l'histoire du club?
Ben, il était à l'aise. À l'aise pour son bilan. Il s'en va, il claque la porte. Il est refusé après un essai de 15 jours à Guingamp, d'une semaine à Caen. Et il arrive à Brest, il est hors de forme, pendant un mois on le voit quasiment pas. Il joue et il va faire 30 matchs, 20 passes décisives, et le club va remonter de National en Ligue 2. Et ensuite il va partir à Metz et faire la carrière que l'on connaît.
Ah ouais, dernier milieu de terrain,
Bruno Grougy.
Évidemment, Grougy.
Voilà, et l'image de Brest aujourd'hui, bon, un joueur qui est aimé, qui aime le public. Voilà, et qui aujourd'hui est consultant sur notre chaîne de télévision avec moi pour commenter les matchs.
Ouais, fallait pas vous fâcher en même temps, fallait forcément le mettre.
Non, Grougy, franchement.
Non, mais il mérite.
Quoi, ouais, c'est
Et l'attaque.
C'est un très bon consultant, hein.
Et alors là, c'est un 4-4-2, hein. Donc ça veut dire qu'il me faut maintenant deux attaquants pour finir, Jackie.
Ah, bah, les deux, je crois que là, le choix a été fait. C'est Drago Vavec, qui est arrivé dans les années 79-83. Tu demandes à n'importe quel Brestois. Est-ce qu'on parlait de Drago Vavec de Michel Platini dans ses époques de la Bresse? Non, on parlait de Drago Vavec. Il était en Yougoslavie, il jouait au Dynamo de Zagreb, il était barré quasiment en équipe nationale par Dragan Djadjic, à l'époque, qui était une star mondiale, parce que c'était un vrai ailier gauche. Et quand on est allé à Zagreb le chercher au Dynamo, on a fait un match amical, il y avait 70 000 personnes qui se sont levées. Quand on a vu l'ovation qu'il avait, on a compris qu'on ramenait une star avec nous à Brest. Et c'était une star. Voilà. Il a marqué 65 buts en 3 ans.
Ah, c'est, ah oui, 65 buts en 3 ans, c'est impressionnant. Et Cabanias, évidemment, avec lui.
Et Roberto Cabanias. Donc, François Lineg est allé chercher. Alors, l'histoire, elle est très longue. Il était à l'América de Cali. Hein. Bon, il est décédé il y a 2 ans, Roberto. Il était à l'América de Cali. Il s'est illustré en Coupe du Monde, en finale de la Coupe de la...
Intercontinentale, si j'ai bonne
idée. Voilà, intercontinentale, je sais le mot. Et le club appartenait au frère Rodriguez, qui était patron de la drogue.
Oui, qui était le patron du cartel de Cali.
Voilà. Et François Lineg avait signé un premier contrat, enregistré devant un notaire en France. J'étais présent à cette réunion. Il repart en Colombie. Les frères Rodriguez, parce que Cabanias avait donc marqué 2 buts en finale de cette coupe avec l'América de Cali, ils font un faux contrat d'$1 million ou de $500 000, le premier. Il vient avec têtu breton qu'il est, ne veut pas céder. Et du coup, il tombe entre les griffes de la mafia là-bas. Et il va rester assigné pendant 7 semaines. Et il va ramener en s'enfuyant. Il va ramener en s'enfuyant avec Roberto Cabanillas. Voilà.
Jacky, franchement, félicitations.
C'est 7 semaines là-bas.
Félicitations pour cette équipe.
7 semaines.
Jacky, je vais juste pour conclure donner l'équipe PIP des internautes. Et s'il y a un truc qui est inacceptable, tu nous le dis. Hein. Ils ont mis Artok dans les buts, quasiment à l'unanimité. Arrière gauche, Brahim Ferraj. En défense centrale, Brio et Ntamé. Arrière droit, Bernard Mendy, messieurs dames, cité par les internautes dans l'équipe PIP, Jérôme. Les milieux qui ont été cités, c'est Geoffrey Dermis, Raspantino et Kamel Chafni. Et devant, Richard Souma, Issam Gemma et Magaï Gay. Voilà l'équipe PIP des internautes.
Ouais, moi, franchement, le brassard, je sais pas si.
Moi, je conteste avec moi de Narbé qui veut pas être dans une équipe PIP.
Précisons que David Ginola n'a pas été cité. Hein. Il aurait pu.
Non, non. Alors, j'avais pensé, mais David est resté qu'un an. Et c'est vrai que bon, il y avait des choix à faire.
Ni Vincent Guérin.
Ni Vincent Guérin, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein d'autres. Ouais. Alors moi, je citerai quand même.
Pour conclure, Jacky.
L'entraîneur historique, Alain de Martini.
Alain de Martini.
Voilà. Le président historique, pour moi, c'est François Hudinec.
Évidemment.
Et j'en ai un autre, de 81 ans, Michel Jospin, qui a pris le club en 93, quand il n'y a plus personne dans le stade, 500 personnes, et qui a mis 13 ans.
Ah, je l'ai connu, lui, ouais, c'est vrai qu'il était sacré caractère. Et qu'est-ce qu'on fait avec Charlie Shaker, alors, dans cette affaire?
Comment?
Bah, équipe PIP, président de l'équipe PIP, Charlie Shaker.
Oui, en fait, ça, c'est l'histoire aussi, elle peut se raconter. C'est vrai que il est arrivé et ça a été la fin après. Il a mis un peu d'argent, mais bon, c'était très compliqué. Le club a déposé son bilan. Et c'est justement Michel Jospin qui, entre autres, le reprend et ramène le club au bout de 13 ans de CFA national et de national en Ligue 2, l'année où Franck Ribéry est à Brest.
Jacky Le Gall, bravo
Jacky,
c'est brillant.
À l'année prochaine en Ligue 1.
Franchement, hein. En explication d'équipe type, c'est ce qu'on a eu de plus brillant depuis le début.
Franchement, oui.
Exactement.
Ouais, parce qu'en plus, ce qui vous fait plaisir.
Comme quoi, comme depuis le début, je vous dis, il faut pas prendre des jeunes pour faire ces trucs-là, il faut prendre des mecs qui ont connu toutes les générations. Bah voilà, pour le coup,
bravo.
J'avais raison.
Et puis Bernard Mendy, capitaine de l'équipe PIP, ça me fait encore plus plaisir. Alors franchement.
Bravo Jacky, merci, bonne soirée.
Merci Jacky.
Dans quelques instants, les infos de minuit et demain, on sera là à 22h. Demain, plongé dans les datas du football moderne, notamment dans l'after. Prenez rendez-vous, Jérôme et Daniel seront là à demain soir 22h.
RMC, l'after foot.